Alors, ça fait plaisir d'être ici. C'est bien la première fois. Je connais certaines personnes ici déjà, Laura, Anne-Marie et d'autres que j'ai vues à l'Institut biblique. Je suis professeure à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, chargée de cours, on dit, parce que ce n'est pas un plein temps. Voilà. Mon nom me trahit. Hein. Ce n'est pas Janet Jackson, c'est Janet Johnson, mais c'est presque pareil. Parce que Jackson et Johnson, c'est des noms tellement... tout le monde s'appelle ça, quoi. Et voilà, mes parents étaient américains, missionnaires au Burundi, et j'ai grandi là-bas, en Afrique. Voilà. Alors, je suis fille de missionnaire, et j'ai le titre de missionnaire en France, mais je ne le dis pas souvent. Je ne sais pas... Parmi mes amis non chrétiens, il vaut mieux ne pas dire qu'on est missionnaire, mais je le suis quand même. Et j'aime beaucoup entendre les témoignages qu'on vient d'avoir là. Je dois dire que, missionnaire ou pas, je me sens vraiment très ordinaire aujourd'hui. Alors le titre « La foi de gens ordinaires », je me sens très ordinaire aujourd'hui. Ce n'était pas mon ambition quand j'étais jeune comme vous. J'allais changer le monde. J'allais faire quelque chose de grand, et voilà, je me sens vraiment très ordinaire aujourd'hui. Mais justement, on va parler de gens qui n'avaient rien d'extraordinaire et que le Seigneur a utilisé. L'histoire se déroule à l'époque des juges, et nous lisons au premier chapitre de Ruth, chapitre 1, donc verset 1. Nous lisons ceci. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Alors, c'est vrai que je vais prêcher sur le livre de Ruth, mais rassurez-vous, ce ne sera pas 3 heures comme la personne derrière moi m'a dit. Ah, alors ça va durer 3 heures. Non, non. Voilà. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Alors, déjà, vous imaginez ça. La famine au pays promis, le pays qui devait découler de lait et de miel est sec. Alors souvent, on ne sait pas pourquoi on souffre. Pourquoi est-ce que Dieu envoie des difficultés et des souffrances? Lorsque Job, par exemple, subit toutes ses souffrances, tous ses malheurs, il ne sait pas pourquoi. Et il ne saura jamais. Sa foi, très précieuse pour Dieu, est mise à rude épreuve, rude surtout parce qu'il ne sait pas pourquoi. Mais à l'époque des juges, c'est différent. Là, on sait. Est-ce que vous avez lu le livre des juges ? Oui, c'est un livre important et intéressant, mais il n'est pas toujours agréable à lire. Et on en vient même à se demander pourquoi certains récits sont là. Mais la Bible, vous savez, nous montre l'homme tel qu'il est. Pour nous faire voir à quel point nous avons besoin d'un cœur nouveau, à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Et les malheurs qui sont racontés dans le livre des juges, sont envoyés par l'Éternel pour éduquer son peuple et le ramener à lui. Car une fois installés dans le pays promis, les Israélites se sont détournés du Seigneur pour adorer les dieux des nations qui les entouraient. Or, ces religions-là étaient cruelles, fausses, perverses. Elles n'enseignaient pas l'amour du prochain. Certaines exigeaient même le sacrifice d'enfants. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Les malheurs, donc, étaient envoyés par Dieu dans le but de ramener son peuple à lui. En effet, dans leur malheur, les gens criaient à l'Éternel et l'Éternel les sauvait, les délivrait. Donc, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Dans ce cas-ci, ce cas du livre de Ruth, était-ce encore une discipline provenant de l'Éternel? Le texte ne le dit pas, mais on peut bien imaginer qu'encore une fois, Dieu éduquait son peuple. Il faut savoir que le faux Dieu qui a le plus attiré Israël dans son histoire était le Dieu Baal. Savez-vous que le Dieu Baal était le Dieu, soi-disant le Dieu de la pluie, des récoltes, de la fertilité, de la fécondité. Et le vrai Dieu, en envoyant la famine, faisait comprendre la nullité de cette idole. Mais le problème de la sécheresse et de la famine, comme d'autres catastrophes naturelles, c'est qu'elles atteignent tout le monde, les justes comme les méchants. La condition humaine, comme nous l'enseigne l'Ecclésiaste, nous est commune. Et les croyants ne vivent pas dans une bulle. Le livre de Ruth, que nous allons maintenant regarder, nous présente une famille pieuse en Israël. Il nous fait rencontrer des gens attachés à l'Éternel, de vrais croyants à l'époque des juges. Oui, il y en avait, et c'était des gens très ordinaires. Mais la famine est là, elle atteint tout le monde. Alors, pour un livre comme ça, un récit, il fallait que je réfléchisse pour faire trois points classiques. Ce n'est pas toujours nécessaire, évidemment, mais j'ai réussi. Alors, mon premier point, c'est « Sous les ailes de l'Éternel ». On va lire le livre de Ruth, donc, versets 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie et le nom de ses deux fils Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Les choses n'ont pas dû être simples pour Élimélec, le père de famille. Sans doute des gens de Bethléem lui disaient « Mais Élimélec, il faut prier ». Il faut faire confiance à Dieu. Mais lui entendait plutôt « Papa, j'ai faim ». Alors il part, il prend toute la famille, il s'installe là où il y a à manger, à Moab, un pays au sud-est d'Israël. A-t-il raison de partir? Le narrateur ici n'exprime aucun reproche. La famille a faim. Elle a les moyens, semble-t-il, de s'installer ailleurs. Elle part. N'aurions-nous pas fait pareil? Je pense que oui. Le seul problème, c'est Moab, si j'ose dire. Qui étaient les Moabites? Leur origine nous est racontée dans Genèse 19. C'est une histoire d'inceste entre Lot, neveu d'Abraham, et une de ses filles. Mais Dieu n'avait jamais reproché aux Moabites leurs tristes origines. Au contraire, il les avait bénis en leur donnant une terre qu'Israël ne devait pas prendre lors de la conquête de Canaan. Dieu donne la terre à qui il veut et il avait donné un territoire spécifique aux Moabites. Cependant, Moab et Israël sont devenus ennemis et le sont restés tout au long de leur histoire. D'ailleurs, pour Israël, c'était un peuple quasi maudit. Nous n'avons pas le temps de voir tout ça, mais je dirais juste que les Moabites n'adoraient pas le vrai Dieu. Or, le mariage mixte, c'est-à-dire entre un croyant et un idolâtre, était interdit en Israël. Le livre des Rois nous dit que Salomon s'est détourné de l'Éternel à cause de ses femmes païennes qui adoraient d'autres dieux, y compris Kémosh, l'ignoble dieu des Moabites. Ce texte de Ruth nous apprend que les fils d'Élimélec et de Noémie épousent des femmes moabites. On pouvait s'y attendre, il n'y avait pas d'autres filles dans les parages. Est-ce pour cela qu'ils meurent? Est-ce que c'est l'Éternel qui les a fait mourir par punition? Le texte, encore une fois, n'en dit pas mot. Il s'intéresse plutôt à Noémie et à son malheur. Elle perd son mari, ensuite elle perd ses fils. Verset 5, à la fin, « Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. » Elle, vraiment, elle n'a plus rien. Puis Noémie apprend que Dieu a de nouveau béni son peuple. La famine est terminée. Et elle décide de rentrer au pays. Ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, qui aimaient Noémie, décident de partir avec elle et les trois se mettent en route. Mais tout à coup, alors qu'elles sont en train de marcher, Noémie s'arrête. « Non, mes filles, ne venez pas avec moi. Rentrez chez vous. » Mais qu'est-ce qu'il apprend ? Pourquoi leur dit-elle cela ? À mon avis, elle a peur. Elle se dit peut-être, si je les pousse à venir avec moi, venez avec moi, je suis seule, etc. Si elle les pousse à venir avec elle, et puis qu'après, elles sont malheureuses, elle se dit, oh, Noémie et Ruth, non, Orpa et Ruth m'en voudront de les avoir fait venir en Israël. Voilà. Elle pense ça, voilà. Si je les pousse à venir, et après elles sont malheureuses, elles vont être fâchées avec moi, on va vouloir. Mais pourquoi ces filles seraient malheureuses en Israël? Pour Naomi, c'est le mariage qui fait le bonheur d'une femme. Et on comprend, à cette époque, une femme seule, surtout une veuve, se trouvait souvent très très démunie. Il est vrai que Noémie possède une propriété en Israël, celle de son mari défunt. Mais la ferme n'a pas été travaillée depuis des années et Noémie n'a pas les moyens de payer des ouvriers. Non, ce qu'il faut à Ruth et à Orpa, c'est le mariage. Elle-même ne peut plus leur donner de fils. Et qui les épouserait en Israël? Qui prendrait des veuves étrangères, des Moabites par-dessus le marché? Mais il y a autre chose aussi. Noémie a un problème avec Dieu. Elle croit en lui, mais elle a du mal à croire en sa bonté. Regardez ce qu'elle dit au verset 13. C'est quand elle essaye de les faire partir chez elle. À la fin du verset 13, « Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Noémie est amère, elle est aigrie. Elle va dire la même chose un peu plus loin, lorsqu'elle arrive à Bethléem. Là, tout le monde est excité de la voir. Mais les femmes disent, c'est Noémie. Ouh, je ne l'aurais pas reconnue, qu'est-ce qu'elle a vieilli. Entre nous, ce n'est pas très sympa, mais il est clair que le malheur a comme ravagé son visage. La souffrance l'a vraiment, vraiment marquée. Alors il dit ceci, au verset 20 et 21, du premier chapitre toujours. « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. » Mara. Mara signifie amère. « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie. » Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Elle est honnête, Dieu m'a fait du mal. Sa main s'est abattue contre moi. Sa main m'a frappée. Remarquez qu'elle ne dit pas que Dieu l'a punie. Il y a juste cette phrase, l'Éternel a témoigné contre moi, ou s'est prononcé contre moi, comme si on était au tribunal et que Dieu l'accusait. Mais je ne pense pas qu'elle se sente particulièrement coupable. Même si elle pense que Dieu l'a punie, elle se dit, pourquoi il m'a punie? Elle était partie avec son mari, elle avait suivi son mari, ses fils s'étaient mariés là-bas, donc elle était restée. Non, non, elle ne se sent pas coupable. Elle était gris justement parce qu'elle sent que ce n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Vous avez déjà entendu des gens dire ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Alors, à ses belles filles, elle dit en somme, retournez chez vous, il semble que j'attire le malheur. Il n'y a plus rien à attendre dans ma maison. Alors, après beaucoup de larmes, Orpa retourne chez elle. Mais Ruth refuse. Elle regarde sa belle-mère droit dans les yeux et prononce des paroles d'engagement qui sont peut-être les plus belles de l'Écriture. Au verset 16, Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ou sera mon peuple. Et ton Dieu est, ou sera mon Dieu. » En fait, en hébreu, c'est « ton peuple, mon peuple, ton Dieu, mon Dieu. » C'est fort, n'est-ce pas? Ruth décide de suivre Noémie. Ce sera sans doute pas facile. Est-ce que vous aimeriez habiter avec quelqu'un qui dit « appelle-moi amère » Mais pour Ruth, l'amitié n'est pas juste pour la vie en rose, juste lorsque les choses vont bien. Son engagement est solide. Et Dieu, qu'est-ce que Ruth sait de Dieu? Ton Dieu sera mon Dieu. Mais Dieu, c'est qui? Ruth a grandi à Moab, où les gens adorent le Dieu Kemosh. Ce qu'elle sait de l'Éternel, elle l'a appris de cette famille israélite venue s'installer chez elle, dans son pays. Or, que vient de dire Noémie? La main de l'Éternel s'est abattue contre moi. Ce que Ruth a appris, entre autres, c'est que Dieu, le vrai Dieu, peut faire venir des choses difficiles dans une vie. Son propre mari est mort. Et si elle accepte ce que dit Noémie, elle croit que ce Dieu d'Israël à qui elle veut s'attacher est celui qui a pris son bien-aimé. Mais elle veut le suivre quand même. Elle ne dit pas, comme on entend souvent autour de nous, si Dieu existait, il ne m'aurait pas fait ça. Quelque part, elle soupçonne que l'Éternel est bon. Ou en tout cas, elle pense que ça vaut la peine de le suivre. Peut-être en est-elle arrivée simplement à comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ton Dieu sera mon Dieu. On peut imaginer sa prière. Seigneur, je ne veux pas te suivre juste quand tout va bien ou quand tu réponds à mes prières comme moi je le désire. Tu as fait venir des choses dans ma vie que je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais. Mais je veux te faire confiance et t'aimer en tout temps, coûte que coûte, coûte que coûte. Alors Noémie et Ruth retournent ensemble en Israël. Et très vite, Ruth se met au travail. Elle est acceptée par le village. Et elle essaye de s'intégrer dans la ville de ce village, de Bethléem. Et elle prend connaissance d'une loi en Israël qui est la suivante. Je vais vous la lire. C'est dans le Lévitique 19, un très grand chapitre. Ceux qui m'ont eu comme prof de loi savent que j'aime le Lévitique et ce chapitre, je trouve, est extraordinaire. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors le Deutéronome a la même loi et c'est précisé, tu laisseras cela à l'immigrant, à la veuve et à l'orphelin. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Alors une loi comme ça où elle peut glaner dans le champ de n'importe qui, derrière les moissonneurs, ramasser les graines qui sont tombées. Donc elle dit à sa belle-mère, je veux aller dans un champ et ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Et elle y va, elle glane dans le premier champ qu'elle trouve, et par chance, ce champ est celui d'un homme appelé Boaz, qui est de la famille même d'Élimélec, le mari défunt de Noémie. Boaz est donc un parent, peut-être un cousin plus ou moins éloigné, et c'est un homme important et riche. Boaz vient saluer ses ouvriers et remarque tout de suite la jeune femme. Qui est-ce ? Le chef des ouvriers répond, c'est la jeune Moabite qui est revenue de Moab et avec Noémie. Elle m'a demandé la permission de ramasser les épis que les moissonneurs laissent tomber. Elle travaille très dur. Ah oui, dit Boaz, j'ai entendu parler de cette femme. Elle prend soin de sa belle-mère et a tout laissé pour venir ici. Alors il va la saluer. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Et puis, Boaz l'invite à manger avec ses serviteurs. Il l'exhorte à ne pas aller ailleurs, glaner dans un autre champ. Et il commande à ses serviteurs de bien la traiter. C'est une grande générosité, n'est-ce pas ? Boaz veut protéger quelqu'un d'un autre pays, d'une autre ethnie, d'un peuple ennemi. Je ne suis pas sûre que tout le monde aurait fait pareil en Israël. Nous sommes le peuple élu, Dieu n'aime que nous. Mais Boaz a compris que tous ceux qui viennent à l'Éternel sont reçus par lui. Savez-vous qui était la mère de Boaz ? Quelqu'un sait ? Oui. Rahab, exactement. C'est Matthieu, le premier chapitre de Matthieu qui nous le dit. Rahab était la mère de Boaz. Rahab, vous savez, la prostituée qui a caché les espions juste avant la chute de Jéricho, voilà, c'est Rahab. Elle s'est intégrée en Israël. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle s'est intégrée par la foi en ce Dieu d'Israël. Donc elle n'a pas péri avec le non-croyant de Jéricho. C'était sa maman. Et puis, Boaz se rappelle peut-être de la promesse faite à Abraham. En toi et en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Et je vois ici des Chinois, et moi je suis d'origine américaine, née en Afrique. Et ben, voilà. Et notre Dieu, c'est qui ? C'est le Dieu d'Israël, n'est-ce pas ? Fantastique. Ou peut-être encore, il se rappelle une autre loi de Lévitique 19, qui dit ceci, quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est Lévitique 19, 33, 34. Fantastique aussi, n'est-ce pas, cette parole de Dieu. Vous allez aimer l'immigré comme vous-même. Ainsi, dans l'Ancien Testament, et à vraiment une époque très reculée, ici plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, nous avons des indices très clairs de la volonté de Dieu de se constituer un peuple fait de toutes les nations. Je n'ai pas le temps de lire les psaumes qui en parlent, les prophéties d'Ésaïe et de Zacharie qui sont merveilleuses. Mais en tout cas, ici dans le livre de Ruth, nous constatons l'ouverture d'esprit d'un Israélite pieux. Lisons encore une fois ce qu'il dit au chapitre 2, verset 12. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Il faut savoir que dans la Bible, se réfugier auprès de Dieu est une façon de dire la foi. On court vers Dieu afin d'être protégé de ses ennemis, du malheur et même du jugement. Si vous avez peur du jugement de Dieu, vous savez où il faut aller ? À Dieu. C'est le seul où vous voulez aller autrement. Il est considéré comme un rocher. C'est utilisé combien de fois ? Forteresse, rocher, pour être protégé. Protégé même contre sa propre colère, la colère de Dieu. Il faut aller vers lui. Mais ici, c'est encore plus. C'est les ailes. Or, les ailes évoquent l'amour. Lorsqu'une poule rassemble ses petits sous ses ailes, c'est parce qu'elle est leur mère. Dieu, lui, nous prend dans ses bras, en quelque sorte, nous serre contre son cœur. Alors, après ce journée de travail, Ruth rentre à la maison et elle est toute contente. Elle raconte tout à sa belle-mère. Noémie est contente aussi. Elle commence à penser que Dieu est bon après tout. Elle dit, je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous, les vivants comme pour ceux qui sont morts, qu'il bénisse cet homme. Alors, mon deuxième grand point sont d'une longueur variable, donc ne vous inquiétez pas. Sous les ailes du Rédempteur. Les ailes, j'ai dit sous les ailes de l'Éternel, maintenant sous les ailes du Rédempteur. Des jours passent, des semaines et des mois. Puis, un beau jour, Noémie décide d'agir en faveur de Ruth, et d'elle-même peut-être aussi. Son regain de foi ne signifie pas qu'elle va rester les bras croisés. Au contraire, elle va profiter de deux lois en Israël. Le texte ne le dit pas, mais je suis sûre que Naomi les a expliquées à Ruth. La première loi, c'était que si quelqu'un en Israël devenait pauvre et vendait sa propriété, celle que Dieu avait donnée à la famille au départ, un de ses proches parents devait racheter cette terre pour qu'elle reste dans le clan. Bien sûr, s'il en avait les moyens. Sinon, ça revenait à la famille au jubilé. Vous voyez, Dieu voulait que chaque famille ait sa terre. Sa part, c'était l'héritage de fils de Dieu dans la terre promise. Et ici, dans ce récit, c'est Noémie qui est la personne pauvre. On apprend au chapitre 4 qu'elle veut mettre en vente sa parcelle de terre. Et donc, elle voudrait qu'un proche parent l'achète. Cette loi s'appelle la loi de la rédemption. Et lorsqu'on dit que Christ est rédempteur, c'est à cette institution israélite qu'on fait référence. Vous savez, si vous dites rédempteur à quelqu'un dans la rue, il ne saurait pas de quoi vous parler. Ça vient de cette institution de Lévitique 25 qui explique ce qu'il faut faire quand il y a quelqu'un de pauvre. L'autre loi à laquelle pense Noémie est celle qui dit que si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère, normalement, doit l'épouser, épouser la veuve, et en prendre la responsabilité. Alors, il n'y avait pas de mariage forcé. J'ai dit normalement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais si la personne refusait, on ne le forçait pas. Alors, tout ça est expliqué dans le Deutéronome au chapitre 25. Alors, ces deux institutions n'étaient pas ensemble au départ, mais au fil des années, on les a un peu, ça montre la souplesse de la loi de Moïse, on les a mis ensemble. Ainsi, le rédempteur, celui qui rachetait la terre, épousait aussi la veuve. Si le parent était décédé sans laisser d'enfant, vous voyez comment ça pouvait aller ensemble. Alors, dans les deux cas, le rédempteur remplaçait la personne en péché, la personne qui n'était plus là ou qui était pauvre, ici Élimélec et ses deux fils. Voilà. La personne remplaçait et prenait toutes les responsabilités qu'il fallait. Ça s'appelait la substitution. Dieu enseignait à son peuple ce principe de substitution, de bien des manières. Alors, Noémie dit à Ruth, écoute ma fille, Boaz est un proche parent, il a le devoir de rachat. En ce moment, c'est la moisson et Boaz doit battre l'orge sur la place où on bat les grains. Il ne retournera pas à la maison ce soir. Alors prépare-toi, parfume-toi, tu vas là-bas. Et lorsqu'il sera couché et il dort, va doucement, couche-toi à ses pieds. Alors, on ne sait pas d'où vient cette loi-là. Ça ne se trouve nulle part, ni dans la Bible, ni ailleurs. À ce qu'on sache, peut-être des découvertes vont. Et puis, revendique tes droits, hein, Ruth. Alors, Ruth obéit. Elle trouve Boaz endormi, elle se couche à ses pieds. Et au milieu de la nuit, lui se réveille et il voit cette femme à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Et Ruth répond, c'est moi, Ruth. Protège-moi, tu es un proche parent, tu as la responsabilité de prendre soin de moi. Ça, c'est parole de vie. Vous connaissez cette traduction qui le dit comme ça. Mais vous savez ce que ça dit littéralement en hébreu? Étends ton aile sur ta servante, car tu es rédempteur. Étends ton aile. Alors, c'était une façon de dire, en français, normal, épouse-moi, s'il te plaît. Alors, j'ai eu des étudiants qui m'ont demandé si c'est OK pour une fille de demander un homme en mariage. J'ai dit, bon, écoutez. Bon, la plupart d'entre nous, les filles, on n'oserait jamais, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être parce que les hommes portaient de longues robes et on fait ça. Le geste de. Parce que différentes traductions disent étends ton manteau. Le manteau, geste de mariage. Mais c'est comme des ailes, hein, les manteaux à l'époque. Voilà. okay. Étends ton aile, car tu es rédempteur. Voilà ce qu'elle dit. C'est très beau ce qu'elle dit. Elle utilise presque les mêmes termes que ceux que Boaz a utilisés lorsqu'il a dit « Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alors, Boaz est content. Hein? Content. Peut-être qu'il avait besoin de ça, je ne sais pas, pour se marier. Mais alors, il est content et admiratif. Vous pouvez lire plus tard ce qu'il a dit. Mais il y a un problème. Il y a un autre parent qui est plus proche de la famille que lui. Et le texte ne donne pas son nom. C'est un grand inconnu. Mais il va peut-être gâcher la fête. Alors, Boaz promet à Ruth de régler les choses au plus vite. Il ira à la porte de la ville. Alors, la porte de la ville, c'était comme un tribunal. Et c'était un endroit où on réglait les problèmes de la cité. Et c'était là où se réunissaient les notables, les anciens. Et Boaz, justement, est un notable. Et il va à la porte de la ville. Et il voit cet inconnu passer, il l'interpelle. « Bonjour mon ami, viens t'asseoir ici, j'ai quelque chose à te dire. » Alors Boaz réunit 10 autres anciens en qualité de témoin, puis il dit « Écoute mon ami, Noémie, notre parente, a mis en vente le champ qui appartenait à notre frère Élimélec. Si tu veux l'acheter, vas-y, tu as la priorité, sinon dis-le-moi. » « Oui, dit l'inconnu, un beau petit terrain, comme ça, ça me va bien. » Boaz répond, « Mais sache que si tu l'achètes, tu dois aussi prendre pour femme Ruth, la Moabite. Ainsi, la propriété restera dans la famille de son mari défunt, le fils d'Élimélec. » Ah, alors, l'inconnu réfléchit. Le coût de la rédemption va être plus élevé qu'il ne pensait. L'acquisition d'un terrain va devenir tout à coup une grande responsabilité et un engagement à vie. Et le terrain, à la fin, ne lui appartiendrait même pas. Oh, trop cher tout ça. Je ne peux pas, dit-il. Alors Boaz, très content, s'engage. J'achèterai donc le terrain et je prendrai Ruth, la Moabite, pour femme. Et l'affaire est conclue devant tous les témoins. Alors, c'est ici que je veux faire une pause avant de conclure. En fait, mon troisième point, c'est la conclusion. Car voyez-vous, ce récit nous éclaire sur le sens, je l'ai déjà dit, du titre rédempteur que la Bible donne à Jésus. Parce que, vous savez, la Bible utilise plusieurs images pour parler de notre salut. C'est comme des bouquets d'images, des groupes, des bouquets. Il y a le bouquet ou le groupe comprenant les idées du sacrifice, le péché comme souillure, la purification par le sang. Okay? Puis il y a le bouquet qui emploie les termes venant du tribunal, la condamnation, la justification, l'avocat, Satan qui nous accuse. Et puis, il y a ce groupe d'images tirées du commerce. La dette, le rachat, le prix à payer, le rédempteur, la libération. Un autre groupe. Et c'est de ce dernier groupe qu'il s'agit dans le livre de Ruth. Comment ça marche? Un rédempteur doit être quelqu'un de la famille. Sa chair et son os, comme dit la Bible. Il remplace la personne qui ne peut plus agir, comme je l'ai dit déjà. Il y a donc substitution. Et puis, il verse un prix. Il verse un prix. Et puis, il prend en charge, par un ferme engagement, la personne démunie. Et cette personne est donc libérée de sa situation précaire. Donc, il y a ces cinq choses, si vous avez vu mes mains. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tout en étant Dieu et en le restant, il a pris notre nature humaine, la chair et le sang, dit l'Épître aux Hébreux. Il a pris notre place, nous qui étions comme morts dans nos péchés. Il a payé le prix pour nous sortir de notre situation désespérée de pécheur. Et nous avons été libérés, donc. Pierre explique que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que nous avons été rachetés ou libérés de la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. Quel prix ! Et puis, Jésus s'engage à notre égard. Là, c'est un mariage au livre de Ruth. Ici, Jésus dit, celui qui vient à moi, qui prend refuge sous mes ailes, m'appartiendra non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité, je ne l'abandonnerai jamais. Dans ce récit, Ruth se réfugie sous les ailes de l'Éternel, mais dans la situation bien matérielle de sa vie, c'est Boaz qui la prend sous ses ailes en devenant son rédempteur. Pour nous, notre rédempteur est l'Éternel, l'Éternel lui-même. Ils ne font qu'un, n'est-ce pas ? En Jésus, les deux ne font qu'un. J'aime ce que les femmes disent à Noémie au chapitre 4, verset 14. Et ça, c'est après le mariage et la naissance d'un enfant. Les enfants, les femmes, verset 14, les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur. » Qui ne t'a pas laissé manquer d'un rédempteur. Moi-même, je peux faire écho à ces paroles aujourd'hui. « Béni soit l'Éternel. » qui ne m'a pas laissé manquer d'un rédempteur. J'espère que vous pouvez dire la même chose. Et maintenant, ma conclusion, qui est en fait mon dernier point, elle est basée sur la conclusion du livre. Je l'ai intitulé, ce point, « Une vie transfigurée ». On aurait pu imaginer une fin de conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En anglais, vous savez, « They lived happily ever after. » Voilà. Et ce sera vrai un jour pour nous. Bon, je ne vais pas entrer dans... J'aime les contes de fées. Peut-être pour Orpah, qui est retournée chez elle, elle s'est mariée, elle a eu beaucoup d'enfants, et qui sait. Mais pour Ruth, les choses, c'était bien mieux, n'est-ce pas ? Infiniment mieux. Lisons au chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Noémie. » Alors, c'est Ruth, évidemment, mais voilà leur coutume. Hein, c'est Noémie adopte, en quelque sorte. Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, ou Jessé, père de David. Et puis, il y a une généalogie. Quelle façon bizarre de terminer cette belle histoire. Regardez 18. Voici les descendants de Pérez. Alors, il faut savoir que Pérez était fils de Judas, lui-même fils de Jacob. Okay? Ruben, Simeon, Lévi, Judas. Voilà, quatrième fils de Jacob. Et puis, ça continue. Pérez engendra Hetzron, puis verset 19, verset 20. Verset 21, vous voyez, c'est une généalogie. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. David. En fait, cette généalogie nous montre pourquoi ce livre est dans la Bible et nous donne une grande leçon. Car à travers le chaos du temps des juges, dans toutes les larmes et les déceptions des gens, le fin mot de l'histoire, c'est que Dieu était à l'œuvre. Et son projet pour le salut du monde passait maintenant par la vie d'une femme étrangère qui n'avait rien de particulier, mais qui s'est attachée à l'Éternel. Ruth est devenue l'ancêtre de David, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. Plus encore, si nous suivons l'histoire, la descendance de David, nous arrivons au Messie, Jésus, le roi des rois. En effet, dans Matthieu, au chapitre 1, nous avons la généalogie de Jésus. Pardon, c'est une nouvelle Bible, j'ai du mal. Voilà. Chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et puis, il y a une longue généalogie. Et verset 4, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahon, Nahon engendra Salma, Salma engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Jessé ou Isaïe, Isaïe engendra David. Et ça continue comme ça jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Nous pensons parfois que Dieu ne peut se servir que de personnes importantes ou talentueuses, des rois, des prophètes, des empereurs, que sais-je. Mais le livre de Ruth nous montre qu'à un moment donné, Dieu a fait dépendre son projet pour le salut du monde de la décision d'une petite femme étrangère sur un chemin quelque part entre Moab et Bethléem. Et le plus extraordinaire, c'est que ni Ruth, ni sa belle-mère, ni Boaz ne l'ont jamais su. À la limite, ils ont peut-être vu leur arrière-petit-fils David, mais certainement pas ce qu'il est devenu. Et bien sûr, ils n'ont jamais rien su du Messie. Je remarque que ce livre ne nous raconte ni miracle, ni vision, ni prophétie, ni d'intervention d'ange, rien. Non, les gens sont comme nous, ordinaires, avec leurs peines, leurs malheurs, leurs joies. Des gens qui font leur boulot quotidien. Mais grâce à l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur vie est comme transfigurée pour porter un poids de gloire, une valeur éternelle. Nous apprenons aussi, je crois, que le sens de notre vie est défini par quelque chose de bien plus grand que les 90 ans qui nous sont donnés de vivre. Alors, ne sous-estimez jamais ce que Dieu vous a donné de faire. Ne sous-estimez jamais les engagements justes que vous avez pris. Peut-être à l'égard de quelqu'un de difficile. Ne sous-estimez jamais un acte simple de bienveillance à l'égard d'une personne, peut-être un étranger que vous n'avez jamais vu auparavant. Nous ne savons pas tout ce que Dieu fait. Nous ne savons pas ce qu'il fera de notre petite vie. Mais l'important, c'est de se réfugier sous ses ailes et de lui obéir. Nous ne savons pas pourquoi plein de choses nous arrivent. Nous ne comprenons pas tout. Mais nous savons comment il est le Seigneur, grâce à sa parole et grâce à la croix. Nous pouvons donc lui faire confiance, absolument. Ta vie, la mienne, celle de nos bien-aimés qui souffrent peut-être, n'est pas vaine dans le Seigneur, sous ses ailes. Et nos actions, faites dans la foi et l'obéissance, Jésus parle de donner un verre d'eau à un disciple. Nos actes faits dans la foi et l'obéissance retentiront jusque dans l'éternité. C'est sa promesse. J'espère que ce petit récit vous a encouragé ce matin, comme il m'encourage à chaque fois que je le lis.